Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air, là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies, hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme.
Bonjour et bienvenue à vous, Hermela et Charlotte.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'espace 99 hein, pour ce nouveau projet d'ouverture dominicale de cet espace par les habitantes et les habitants du quartier EPACO. Et voilà, dans le cadre de ces petites discussions, eh bien, nous pensions que la radio pouvait être l'occasion de se rencontrer et de faire se rencontrer des personnes de passage avec des personnes qui habitent par ici. Vous êtes toutes les deux, vous faites toutes les deux partie de Jet d'encre. Alors, Jet d'encre sur le site internet dont je donne immédiatement l'adresse www.jetdencre.ch, jetdencre en un mot, jetdencre.ch, eh bien, il est indiqué jetdencre, tribune indépendante pour une pensée plurielle. Alors, je n'irai pas plus loin, c'est à vous de me dire, voudriez-vous étayer ce court aphorisme? Qu'est-ce donc que jetdencre de votre point de vue, du point de vue de l'intérieur?
Alors, jetdencre, c'est une tribune participative, je pense que c'est le mot participatif qui lui correspond vraiment le plus. Donc ça veut dire que c'est une plateforme où tout le monde peut soumettre un article sur un sujet qui lui est voilà, important, qui lui est cher. Et tous les articles donc sont relus par un comité de bénévoles. Donc on est 10, donc Hermela et moi on en fait partie. Et on aide les auteurs à améliorer leurs propos, à affiner l'argumentation. Et on publie ensuite l'article avec voilà, des photos, des liens, etc. comme un média tout à fait professionnel. Et on le publie sur tous les réseaux. Donc voilà, c'est participatif, tout le monde a quelque chose à dire et puis nous on aide les personnes, les contributeurs à formuler leurs propos.
Est-ce que cette aide est d'un caractère technique ou est-ce qu'il est également là pour accompagner un cheminement intellectuel?
Je pense qu'il y a les deux, enfin non, il y a totalement les deux. C'est qu'à la fois il y a des articles où on va juste s'arrêter sur plus la technique, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe et... On va pas forcément rentrer dans le contenu en soi. Et puis, suivant aussi la demande de la contributrice ou du contributeur, on va passer plus de temps pour travailler le texte, avoir des demandes plus spécifiques, répondre à des points qu'on estime peut-être laissés en suspens ou peut-être pas assez clairs ou pas assez concis. Et du coup, on va faire tout ce travail avec la personne.
Ouais. Vous-même êtes d'extraction journalistique ou avez-vous des parcours et des trajectoires extrêmement diverses?
Alors on a des parcours assez divers, mais c'est vrai que plusieurs d'entre nous au comité ont eu des expériences journalistiques. Donc voilà, on a une formation et plutôt médiatique, et en tout cas on est assez proche et on suit le milieu médiatique, roman, Genevois. Oui, tout à fait.
Très bien, très bien.
Après c'est plus un intérêt, moi je suis pas journaliste de formation, mais c'est vraiment plus un intérêt personnel et individuel, et aussi une volonté de vouloir partager ça sans rentrer dans le carcan très professionnel de la chose.
Alors ça. Justement, quel est votre regard sur les médias, qu'on les appelle médias de masse, médias usuels, médias traditionnels ou que sais-je? Portez-vous un regard particulièrement critique? Est-ce que vous sentez qu'il manquait quelque chose et c'est pour ça que j'ai donc à sa raison d'être, etc., etc.?
Alors, nous, on n'est pas du tout des concurrents des médias traditionnels. On est au mieux complémentaires parce qu'on propose quelque chose de très différent qui est vraiment dans l'approfondissement, dans l'analyse, dans justement la diversité, la pluralité de points de vue. Mais c'est vrai qu'à l'origine, Jet d'encre a été créé il y a 8 ans par des universitaires, donc qui sont encore au comité aujourd'hui, qui trouvaient en fait qu'ils apprenaient des choses hyper intéressantes à l'Uni, ils avaient des savoirs incroyables et ils trouvaient qu'il manquait une forme de transmission de ces connaissances-là au grand public. Et du coup, j'ai donc c'est né de ça, de l'envie de vulgariser et de rendre accessible des connaissances.
Et partir aussi d'un principe aussi plus objectif, dans le sens...
Le mot est lancé.
Voilà.
Petite question. Là, je surligne ma question.
En fait, objectif et subjectif dans le sens où l'objectivité va se retrouver dans un contenu qu'on veut quand même analytique, référencé, pour que les gens qui n'ont pas accès à ce sujet puissent se renseigner par eux-mêmes. Mais il y a aussi un espace d'expression littéraire bien plus libre. Et les sujets ne sont pas... on va en discuter. Il y a des sujets d'actualité qui nous parlent ou pas, mais ça va être très subjectif et ça va être moi j'ai envie de faire ça et j'ai envie de transmettre ce sujet, ces connaissances-là. Donc voilà, le contenu se veut quand même rattaché à des choses méthodologiques et analytiques et de compréhension. Mais après, la base, voilà, chacun et chacune décide du sujet qu'il veut ou qu'elle veut traiter.
L'objectivité est-elle souhaitable? Est-elle possible? Ou n'est-ce là qu'une façade ou qu'une formule de façade?
Je pense que l'objectivité est impossible. Et puis c'est aussi en partie une des raisons en partie pour de la crise du journalisme actuellement. Finalement, à partir du moment où un auteur prend la plume pour écrire sur un sujet, il a un point de vue qui peut essayer de gommer, mais la façon dont on va écrire, l'angle qu'on va prendre, les mots qu'on va utiliser, la formulation qu'on va employer, elle dénote un point de vue. Et ça, c'est tout à fait universel, dans la parole comme dans l'écriture et à la radio également. Donc nous, on assume cette subjectivité en disant, voilà, chaque auteur a un point de vue, chaque auteur a un parcours, et on dit très clairement, voilà, quel est le nom de cette personne, quelle est sa photo, d'où elle vient. Et c'est une subjectivité qui est voilà, assumée. Tout à fait assumée.
Revendiquée, assumée, elle le peut. Hein. Ouais. Dès lors, enfin, je me permets une considération personnelle, mais dès lors que les propos sont sourcés, qu'ils sont étayés, je pense qu'on peut se permettre, et que c'est même souhaitable, de proposer une opinion qui donne un point de départ à une réflexion, qui est une réflexion critique. Et l'esprit critique, on sait l'intérêt que ça a, au-devant notamment d'une quantité de fake news et de médias qui peut-être justement sont dans une forme de rétention, en tout cas de sujets tabous, me semble-t-il, en tout cas de sujets délicats au devant desquels ils ne vont pas. On a eu l'exemple avec le sujet juste avant vous, justement, concernant la Palestine. Alors, justement, des sujets tabous, en existe-t-il au sein de Jet d'encre, ou bien est-ce que l'on peut absolument tout aborder?
Ah, c'est une bonne question. On peut tout aborder tant que ça tombe pas sous le coup.
D'accord.
La loi, donc du racisme, voilà, je veux dire, en principe ça, hein, le racisme, diffamation peut-être.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait, tout ce qui tombe sous le coup de la loi.
Ouais. Oui, d'accord, donc pas de sujet tabou.
Il n'y a pas de sujet tabou, et enfin, on encourage même des contributeurs à publier des articles, voilà, où ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et même, des fois, nous, personnellement, on n'adhère pas du tout. Mais on trouve que c'est important qu'il y ait une pluralité de points de vue, et puis que c'est important de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord avec les autres.
Oui, c'est ce qui va nourrir le débat. Et puis, je veux dire, la seule imposition, entre guillemets, la condition sine qua non, c'est que c'est sous le nom de l'auteur. C'est tout, ce qui permet aussi de prendre contact, de discuter, de nourrir autre chose, d'autres connaissances. Voilà. C'est pas de l'anonymat gratuit, c'est pas de l'insulte gratuite.
Ouais. On n'est pas sur un site de délation.
Pas du tout.
On l'avait bien compris. La version, le parti pris numérique, ça c'est un parti pris justement, ou bien est-ce qu'une version papier pourrait tout d'un coup naître, surgir?
C'est une très bonne question. Ouais. Je pense que en personne qui aimons écrire et lire, je pense qu'on aimerait tous qu'il y ait aussi une version papier. Faut préciser que le comité de Jet d'encre est complètement bénévole et on fonctionne avec nos forces humaines. Malheureusement, l'impression papier a un coût important et pour le moment, ça reste sur le numérique.
D'accord.
Ça pourrait partir sur plutôt des sujets très thématiques, enfin des sujets très précis,
voilà.
Genre des gros dossiers où on pourrait faire des éditions limitées peut-être, mais voilà.
Des cahiers spéciaux, des dossiers comme les dossiers du Monde Diplo, enfin des manières de voir du Monde Diplo, pourquoi pas. D'accord, en tout cas vous interdisez rien, ça c'est bien. Voilà. Êtes-vous en recherche d'autrices et d'auteurs, ou bien vous êtes extrêmement sollicité, où est-ce qu'on en est?
On est toujours en recherche de contributions. Parce que c'est ce qui va forcément nourrir le débat, et c'est pas seulement nourrir la plateforme et faire la notoriété pour Jet d'encre, pardon, mais vraiment nourrir le débat, amener de nouvelles connaissances, amener de nouveaux sujets que si on n'est pas du tout au courant, on n'a pas la science infuse. Donc on est toujours à la recherche de contributions. Mais comme le disait Charlotte, c'est un comité bénévole, on est 10, on sait pas notre profession, et c'est vrai que il peut avoir des périodes où on va mettre plus de temps à répondre à certaines contributions, mais on va s'efforcer de le rendre dans un délai respectable, mais on accueille tout.
D'accord. A priori, on peut tout le temps. A priori, on peut vous accoster par mail assez facilement en faisant un petit message en disant j'ai cet article ou même je vous le mets déjà en PDF.
Ouais, exactement.
Donc ça peut aller quand même assez vite finalement. Enfin, la proposition, en tout cas, elle peut se faire de manière très
très directe.
Voilà, très directe. Ouais, merci, cher Chenement. Ouais. Au sein de Jet d'encre, est-ce que vous êtes une association au bout du compte également? Enfin, je demande ça parce que j'allais vous demander si effectivement ensuite il y a des. C'est évidemment aussi pour faire la transition vers la conférence dont on va parler maintenant, mais également pour dire, voilà, peut-on vous soutenir d'une certaine manière? Est-ce que vous cherchez des personnes qui pourraient vous aider, mais non pas en écrivant, mais en vous invitant à faire une soirée de soutien ou des choses comme ça?
Oui, alors on s'est constitué en association il n'y a pas très longtemps. On propose de temps en temps aux gens de nous faire un don. C'est vrai que tout don nous est très très précieux, par exemple pour la maintenance du site, pour tous les aspects techniques. Donc évidemment tout soutien est bienvenu, et puis voilà, tout soutien aussi, toute contribution même est bienvenue, parce que c'est aussi la première forme de soutien pour nous.
D'accord. Voilà, donc de cette manière-là, les personnes peuvent, de cette manière-là, via le site internet, on peut également vous solliciter pour toutes ces choses-là. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on vient à la conférence?
Oui.
La toute première conférence de Jet d'encre, hein, si je ne me trompe.
Exactement.
Alors, ce sera le 5 décembre, tout soudain, c'est dans 4 jours, là. Jeudi prochain, à Genève, à 19h, de 19h à 21h30, Unibastion, salle B111. C'est la belle grande salle à deux étages? Non. C'est celle un peu à droite?
C'est celle à côté de Lola, enfin de la grande salle. Hein.
Oui,
exactement.
Voilà. Au premier
étage.
Premier étage, oui, B111, au premier étage. Donc, c'est, on y arrive avec le tram. Voilà, c'est très simple pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est à l'université où il y a la bibliothèque, dans le parc des Bastions. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Alors, quel sera le sujet? Droit à la ville, 2 points. Quelle fonction sociale pour les squats? Est-ce que vous avez envie d'égrener les intervenantes et les intervenants, ou je le fais moi?
Vous pouvez le faire et puis on va rajouter.
Ouais.
Vous le faites très bien.
Mais c'est gentil, merci beaucoup. Et non, puis je le fais avec beaucoup de plaisir, d'autant qu'il y a des personnes qu'on a déjà interviewées qui sont parmi les camarades. Luca Pataroni, chercheur au laboratoire de sociologie urbaine de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Luca Pataroni, donc un sociologue qui est par ailleurs engagé, on va pas se masquer la face. Marie-Hélène Grinevald, ancienne squatteuse œuvrant à la documentation et à la mise en valeur des patrimoines du mouvement squat à Genève. Effectivement, elle était venue nous parler d'une de ses balades squat à la radio. C'est une camarade également dont on sait les valeurs. Justine Ruchat, comédienne et dramaturge genevoise, ancienne habitante de squat, ainsi que Nicole, alors je ne sais pas, comment est-ce qu'on prononce?
Valiquaire, je crois.
Valiquaire,
ouais, il semble. Ouais, je crois que c'est Valiquaire.
Responsable des infrastructures culturelles à l'Office cantonal Genevois de la culture et du sport. Et puis, ce sera modéré par Victor Santos Rodriguez, membre du comité de Jet d'encre depuis le tout début, il me semble. Hein. En tout cas, il est là.
Exactement, voilà. Il faisait partie des membres fondateurs et président de Jet d'encre aussi.
Et ces diverses interventions seront suivies d'une discussion ouverte au public. Pourquoi commencer par ce sujet-là, droit à la ville, quelle fonction sociale pour les squats?
Alors c'est un sujet qui nous trottait un peu dans la tête depuis, je dirais un peu plus qu'une année. Donc il y a une année, comme je pense que vous l'avez suivi, il y a eu cette occupation de Porteus par un collectif qui refusait que cette ancienne station d'épuration soit transformée en prison. Il voulait que ça soit un centre socio-culturel autogéré. Puis à cette occasion, Victor Santos Rodriguez s'était positionné là-dessus par un article. Et puis en fait, on a un peu étoffé cette réflexion en faisant des dossiers sur la précarité en Suisse et des dossiers sur les sans-papiers en Suisse. Et on s'est rendu compte en parlant avec les travailleurs sociaux que la fin des squats à Genève, donc il faut savoir que Genève c'était une des capitales européennes du squat dans les années 90, donc il y avait à peu près 160 squats en tout dans la ville. Et que donc depuis la disparition de ces squats, il y a à peu près 12 ans, il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées sans logement. Enfin, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui bénéficiaient de ces endroits, qui se sont retrouvées à devoir aller dans des accueils d'urgence, dans des lieux d'accueil bas seuil. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans une situation de précarité. En fait, et en fait, les squats les empêchaient d'être dans cette situation de précarité. Et on a développé un peu cette réflexion en se rendant compte que finalement, les squats, ils jouaient un rôle social par rapport à plein d'éléments, par rapport à la culture, par rapport à l'inclusion, par rapport à la non-discrimination de personnes d'origine différente, de sans-abri, de sans-papiers, de migrants. Enfin bref, les squats jouaient un rôle social hyper important. Et on a voulu demander, en fait, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui par rapport à ces squats? Est-ce que cette fonction sociale que jouaient les squats, on peut la retrouver ailleurs aujourd'hui? Et si oui, comment?
Et selon vous, est-ce que vous avez une position personnelle qui pourrait, sans ne dévoiler ce qui va se dire à la conférence, bien entendu, mais votre position, est-ce que vous, vous assistez à, au travers également des mouvements extrêmement importants, extrêmement jeunes qui surgissent hein, en ce moment, notamment Climate Strike, Extinction Rebellion, on voit que les occupations et que des termes, la sémantique compte, de nouveau, on réutilise le mot grève, qui était peut-être qui s'est tombé un peu en désuétude, et bien là, il est de nouveau au centre de l'actualité. Selon vous, et bien, cette fonction sociale qu'avaient les squats, notamment celle de se façonner un esprit critique et de faire de la politique d'une certaine manière, est-ce qu'on la retrouve ?
Alors, je ne peux que parler personnellement, parce que voilà, il faut venir à la conférence.
Mais oui.
Voilà, pour que les intervenantes et les intervenants puissent vous parler de leur expérience. Alors, moi, j'ai pas d'expérience, je n'ai jamais vécu dans un squat, mais c'est vrai que j'ai eu, tout ce qui émanait du squat, et notamment l'Artemis quand j'étais un peu plus jeune. Donc, salle de concert, lieu de fête, en fait, lieu de vie de manière générale, en partant d'un lieu d'habitation, qui avait, en tout cas pour ma part, une fonction de combattre l'isolement surtout et la marginalisation. Donc moi, mon historique, c'est plutôt à travers la fête, le Goulet et l'Artemis. Mais c'est vrai que je peux remarquer qu'aujourd'hui, malgré les nouvelles initiatives qui émanent de ça, il y a une espèce de perte identitaire parce qu'il faut, s'intégrer, il faut avoir l'aval d'institutions publiques, et c'est compliqué, et celles qui s'en sortent généralement ont accès à des fonds, ont accès à un réseau plus peut-être étatique, et du coup ça perd peut-être de ces, je sais pas, j'allais dire lieu d'émulsion, mais c'est pas le émulation
voilà, hein, d'accord,
qui sortait de ce genre de lieu là les artistes, c'est compliqué pour eux de se reloger également, et puis bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vécu dans les squats, donc je pourrais pas forcément dire toute la population qui y vivait, mais je pense qu'on la retrouve moins, ou en tout cas moins diverse.
D'accord.
Aujourd'hui, mais oui. Ça, c'est mon point de vue.
Oui, oui, très bien. D'ailleurs, je me tourne vers les personnes qui sont parmi nous. Est-ce le mot squat un mot qui peut effrayer, ou quel est l'imaginaire que l'on se représente quand on utilise un mot comme le mot squat? Si jamais quelqu'un de vous aurait envie de réagir par rapport à ça et de dire, tiens, même pour moi, le mot squat, parce qu'il ne recouvre pas le même sens, ne serait-ce que déjà en France. En France et en Suisse, quand on dit squat, on n'a pas les mêmes représentations. Et je me demandais si parmi nous, si parmi nous des personnes souhaitaient déjà s'exprimer, vous n'hésitez pas en tout cas, mais si pour des personnes ici, le mot squat aurait-il d'autres sens, évoquerait-il d'autres choses? Donc si jamais vous avez envie de le dire, vous prenez le micro. Voilà. Pour en revenir donc à cette conférence, selon vous, le squat, est-ce également un lieu de résilience? Parce qu'on l'a vu, vous avez parlé de logement, que ça sortait peut-être de situations extrêmement compliqué, extrêmement délicat, des personnes qui du coup pouvaient y recouvrer, eh bien, tout ce qui va avec un logement, un repas pas cher ou gratuit, un accès à la culture d'une certaine manière, donc une forme de dignité, d'humanité et de protection, qui sait également, parce que certains squats te mettaient en avant, et c'est à ça que je voulais en venir, des attitudes adéquates, et justement souhaitaient quitter un monde sexiste, un monde paternaliste, un monde de domination également. Et je voulais en venir à cela, c'est pour ça que je vous interroge sur le terme et la notion de résilience, c'est parce que j'aimerais citer le cas du squat de Prénaville. Prénaville, donc, en 1981, deux jeunes femmes se font violer par des motards, bande des pharaons à l'époque on disait. Alors, on pourrait en parler, on va pas en parler ici longtemps parce que il y a eu toute une série de dysfonctionnements de la justice également autour de cela. Mais la résilience, elle est présente puisque des années après, c'est Viol Secours qui en est né. Viol Secours qui est extrêmement active actuellement et qui non seulement est active, mais étend encore son activité non seulement aux femmes mais aux personnes trans, aux personnes de la communauté LGBTQI+. Ça, c'est pour vous un aspect également important que l'on a trouvé dans les squats et qui peut-être est plus difficilement, qui surgit plus difficilement maintenant que les squats ont disparu, en grande partie.
Alors, par rapport à la fameuse affaire des viols dans ce squat dont vous parlez, c'est vrai que on a vu hein, que ça a généré cet incident sordide, ça a généré une mobilisation des femmes et puis des personnes dans les squats par rapport à, au viol collectif que ces femmes avaient subi, que ça a contribué aussi à changer après la loi au niveau pénal, hein, donc il y a eu des circonstances aggravantes qui ont été appliquées pour les victimes de viol collectif, pour les, pardon, les auteurs évidemment de viol collectif. Donc je pense qu'effectivement c'était des lieux qui cristallisaient une forme de contre-pouvoir, d'engagement citoyen, et en fait dans ce qu'on lit aussi d'ailleurs des travaux de Luca Pataroni qui sera là jeudi, c'est que c'était des lieux où tout était lié en fait, c'était des espaces de vie, des espaces collectifs où finalement l'art se mêlait à la politique, se mêlait à l'engagement militant, et ça c'est quelque chose qui a été très fragmenté depuis. Qu'on sent un peu, il y a quand même des indices de quelque chose qui est en train de grouiller un petit peu, et puis des manifestations un peu spontanées, mais il n'y a plus de lieu global où il y a tout ça en même temps.
Le tout en un est un peu voilà, enfin ça va être beaucoup artiste pour un moment, là ça sera culturel, là ça sera habitation, et du coup c'est plus éclaté. Après, ça reste des îlots de résilience et de résistance, hein. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la mauvaise image du squat. Et c'est vrai qu'aussi, je pense que la conférence et puis aussi l'article de Victor que vous pouvez trouver sur Jeux d'encre part de ce constat-là où nous, on a grandi avec bon, les squats, c'est des voyous et des drogués. Et c'est gratuit, et ils veulent pas participer à la société, et c'est nous qui payons. Enfin, voilà, c'est un peu cette image-là qu'on a et qu'on a eu, voilà, dans le l'inconscient ou même plutôt la conscience collective. Et on oublie on oublie tout ce que ces lieux ont pu faire. Déjà, il faut une organisation. Sauf que l'organisation est différente. Mais il y a une organisation, il y a une création de communauté, il y a des valeurs, on se raccroche, il y a des tâches. On garde le lieu propre, on fait attention aux uns aux autres. Il y a des familles, il y a des gens seuls. Il y avait une espèce de vraie communauté. Sauf que cette communauté-là D'accord. ne Ouais. rentrait pas forcément dans les standards qu'on attend de la norme. Mmh. C'est plus ça.
Pourquoi, je veux pas vous interrompre. Si vous, non, alors je continue. Pourquoi, selon vous, moi qui suis plus âgé que vous et qui ai vécu en squat, j'ai pas du tout cette image négative des squats. Comment, selon vous, s'est-elle installée? Je me souviens d'un temps, au moment, en gros, de l'évacuation de Reno, qui était à l'époque le plus ancien, 20 ans, je crois qu'on était à 20 ou 25, alors que c'était un squat parmi les squats dits à l'époque, dans le milieu, disons, guillemets, artistique et pas politique, il y en avait des plus radicaux, d'une certaine manière. Eh bien, on s'est aperçu, mais un peu comme ça, par hasard, qu'on avait à un moment donné un soutien de la population qui avait été perdu. Et alors peut-être que c'est le nez dans le guidon, mais de cette manière-là, nous, je me souviens de nos pratiques, des haltes garderies avec cours, et que donc les voisins étaient super contents qu'il y ait des squatteurs qui organisaient leur vie de manière différente. On faisait déjà du friganisme, donc on récupérait les poubelles pour faire des petites cantines. Et les gens nous voyaient plutôt d'un assez bon œil, quoi, malgré la radicalité des fois des propos. Et puis, alors, selon vous, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une opinion publique qui s'est transformée? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous l'expliquez?
En fait, j'ai plutôt envie de vous poser la question à vous, vu que vous avez vécu dans les squats, parce que moi, j'ai pas mal discuté avec Justine Ruchat, qui va parler à la conférence, justement jeudi, et qui, elle, vivait dans les squats à cette époque-là, peut-être en même temps que vous, puis elle disait qu'elle avait senti une espèce d'un fossé qui s'est créé entre la population civile et les personnes dans les squats, et puis elle-même, elle disait qu'elle a de la peine à comprendre pourquoi. Est-ce que c'était une radicalisation un peu des deux côtés, où d'un coup, il n'y avait plus un espèce de canal de communication, de transmission entre les deux? Moi, j'aurais de la peine à répondre. Après, de ce qu'on sait aujourd'hui par rapport au démantèlement des squats, c'est que d'un coup, il y a eu une volonté politique très très ferme et très très dure, et qui a voulu vraiment complètement démanteler, et puis voilà, sans vergogne, sans tenir compte de ce contre-pouvoir, un peu de cet îlot qui s'inscrivait contre l'État. Et du coup, c'était, je pense, pour eux, c'était insupportable.
Très bien, très bien. Écoutez, de toute façon, on va découvrir ça pendant la conférence, effectivement.
Exactement.
Mais en tout cas, voilà, c'est une aventure qui a l'intérêt d'avoir été, d'avoir existé pendant quand même un certain nombre d'années. Et je pense qu'on peut dire que si on parle de Porteus, effectivement, de droit à la ville, de Malagnou et d'autres entités qui résistent encore, même si elles sont moins nombreuses maintenant, eh bien, on voit qu'il y a, que l'organisation, que l'envie de s'organiser en commun et que cette utopie concrète, eh bien, elle a encore cours. Ça, on peut dire concrètement que dans l'esprit et dans le cœur de plein de gens, eh bien, ces valeurs-là ont envie de continuer et pourquoi pas de ressurgir à tout moment. Et c'est peut-être un bon moment. Actuellement, on est peut-être dans une phase de l'histoire, chez nous en tout cas ici, qui pourrait favoriser ce type d'attitude avec des friperies, des free shops qui se démultiplient et puis une autre manière de concevoir nos existences individuellement et collectivement. Je ne sais pas ce que vous en dites.
Non, je pense que la question, elle se pose de plus en plus dans la manière de vivre sa vie, de consommer. On revient au local, on revient au presque au troc aussi par moment. Bon, y a énormément de sociétés, enfin de coopératives d'habitation qui ont vu le jour ces dernières années. Après voilà, l'espace en soi, l'espace public, on remarque aussi une volonté quand même de l'État de mettre en marge, même physiquement, parce qu'on parle de lieux quand même, l'usine est tout le temps menacée, Artemis n'existe plus, enfin dans le sens où il y a d'autres, ça ouvre d'autres questions. D'autres questions par rapport à comment on concilie la diversité, mais en même temps la standardisation, comment on concilie les volontés étatiques avec la population. Enfin, je veux dire, c'est plein de questions qui se posent, mais je suis totalement d'accord avec le fait que c'est un sujet toujours d'actualité. Et je voulais quand même répondre à votre question. Alors, je crois que je l'ai oublié, mais ça va me revenir. Par rapport au lieu, c'était quoi la question d'avant?
Ouais. Alors, il y a résilience, non, c'est après.
Ouais, pourquoi d'un coup les squatteurs ont été mal vus?
Ah oui,
ouais, d'accord, ce retournement.
La population n'avait plus de soutien.
Ah oui, voilà, mais vous parliez de votre expérience personnelle, c'était ça, donc vos voisins étaient. Étaient satisfaits de ce que vous pouviez leur offrir, mais enfin, dans le sens où. Au final, comme toute thématique, c'est un décloisonnement. C'est qu'en fait, du moment où on sait avec qui on vit ou qui nous côtoie, et ben voilà, les barrières tombent aussi. Et que si on se raccroche aux médias, si on se raccroche à la politique, et ben on va pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et je peux comprendre, sans le tolérer, que on n'y connaît pas. Et ben le premier truc qu'on va faire, c'est se mettre sur la défensive.
Donc, en tout cas,
voilà,
c'est
ce que je voulais
dire. Ça peut être une des pistes pour expliquer ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, eh bien, nous pourrons questionner à l'envi ces invités, ces intervenantes et intervenants qui seront là donc le jeudi prochain 5 décembre 2019 ici à Genève entre 19h et 21h30 à Unibastion, donc précisément à la salle B111. On le rappelle, ça commencera par une présentation par Luca Paterini, sociologue, Marie-Hélène Greenwald qui est une ancienne squatteuse également et qui fait les balades de squat à Genève depuis un moment maintenant. Justine Ruchat, comédienne, dramaturge et ancienne squatteuse, squatteureuse également. Et Nicole Valliquet, responsable des infrastructures culturelles à l'Office cantonal Genevois de la culture et du sport. Tout ceci sera modéré par Victor Santos Rodriguez, membre du comité de Jet d'encre. Et ensuite, les diverses interventions du public. Voilà,
exactement.
Donc on invite toutes et tous à accourir en nombre à la salle B111 ce jeudi prochain 5. Et ensuite, alors c'est la première conférence et puis vous en avez d'autres qui nous attendent ou d'autres petites choses, d'autres petites idées comme ça vous habitent?
Alors, après notre conférence, on aura la publication d'un documentaire assez conséquent. Ce sera aussi une première. On peut pas vous révéler le sujet encore, mais on se réjouit beaucoup. Ça devrait être d'ici la fin de l'année.
Et donc, on pourra vous questionner à ce moment-là également. Au moment où vous pourriez nous le communiquer, on pourrait vous solliciter pour une petite interview.
Avec grand plaisir.
Ah, c'est très bien, très bien. Alors, c'est noté. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre, ou est-ce que nous considérons que nous avons été relativement exhaustifs aujourd'hui et on s'arrête là? À vous de voir.
Pour moi, on peut s'arrêter. Ouais,
on peut s'arrêter là pour aujourd'hui.
Ouais,
d'accord. Hermela, alors merci beaucoup.
Merci à toi.
Avec beaucoup de plaisir. Charlotte, merci également.
Merci
donc
beaucoup.
Toutes deux membres du comité de Jet d'encre. Le site internet c'est www.jetdencre.ch et Jet d'encre, on l'a dit en un seul mot, JETDENCRE.ch. Merci et bonne conférence.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Un plaisir.